Exploration Bivouac.
Exploration Bivouac. Bienvenue dans Bivouac, l'émission qui vous fait découvrir des personnalités inspirantes pour nous ouvrir la voie à de nouveaux possibles. Je m'appelle Cyrielle Ariel, je suis auteure et journaliste d'impact, spécialisée dans la consommation responsable et le développement durable. C'est animé par l'envie de montrer que des solutions alternatives existent que j'anime la série de programmes Exploration Bivouac, ce nouveau format talk co-créé par BNP Paribas et So Good, le média papier et radio qui donne la parole à celles et ceux qui changent notre société en apportant des solutions pour construire un avenir plus durable. À chacun de nos rendez-vous, nous invitons de nouvelles personnalités, des doueurs engagés, à partager leur parcours, leurs expériences et à échanger sur des thèmes de société actuelle. Suivant la ligne éditoriale du média So Good, ces personnalités nous partagent également quelques outils, quelques clés à nous approprier pour participer, nous aussi, à notre échelle, à la création d'un monde plus équitable et inspirant.
Exploration Bivouac. Be the change, make it happen.
Aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir pour un épisode hors série de Bivouac où il sera question de mentorat avec un invité d'honneur, Monsieur Jean-Laurent Bonafé, administrateur directeur général de BNP Paribas. Et pour mettre en regard son témoignage, nous aurons le plaisir d'aller à la rencontre d'Erika Cogne. Diplômée de HEC Paris, elle est actuellement directrice générale de Télémac, une association qui met à disposition des mentors pour des jeunes afin de favoriser l'égalité des chances. Passons tout de suite à leur portrait.
Exploration Bivouac, portrait d'explorateur d'aujourd'hui.
Bonjour Monsieur Bonafé.
Bonjour.
Nous vous remercions de prendre ce temps aujourd'hui et nous allons discuter ensemble de cette transmission à travers le mentorat. Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours ? Vous avez intégré d'ailleurs BNP Paribas en 1993.
Absolument. Donc je suis, de formation plutôt un scientifique. J'ai fait beaucoup de mathématiques, l'école polytechnique, l'école des mines. Et puis... d'administration publique, et puis j'ai rejoint la banque assez tôt en fait, j'avais une trentaine d'années, pour faire du commerce, la banque de grande clientèle, la banque d'investissement comme nous dirions aujourd'hui, et puis ceci m'a amené après à prendre la direction de la stratégie du développement, à participer au lancement du projet SBP, Société Générale BNP Paribas, dont il est resté à la fin la fusion entre BNP et Paribas. Puis je me suis occupé de réalisation du projet. Et puis après, j'ai fait un certain nombre de choses. J'ai dirigé les équipes en France, la banque BNL lorsqu'elle a été achetée en Italie. Puis après, toutes les activités de banque de particuliers, de retail, banque domestique, de métiers spécialisés. Puis après, je me suis occupé de l'opération avec Fortis, la grande banque belge, qui était en fait une banque européenne, l'intégration. Et puis finalement, je suis devenu le dirigeant du groupe BNP Paribas en 2011, donc c'est un peu plus de 10 ans.
Qu'est-ce qui vous a plu dans le secteur financier ?
Alors, nous ne sommes pas dans le secteur financier. Nous sommes une banque commerciale. Qu'est-ce que c'est qu'une banque commerciale ? C'est une banque qui sert des clients. Des clients particuliers, des petites entreprises, des moyennes entreprises, de très grandes entreprises, d'autres banques, des asset managers. Donc nous servons des services, nous finançons, nous conseillons l'ensemble des agents économiques. Il y a aussi des États, il y a des collectivités locales. Donc nous sommes une entreprise qui proposons, déployons des services auprès de tous ces fonds de commerce. Et ces services, c'est souvent du financement. Des conseils pour gérer l'épargne ou des prestations qui peuvent être des moyens de paiement, des flux, des opérations de marché, etc. Mais nous sommes une entreprise commerciale. Donc notre futur, notre présent, ce sont nos fonds de commerce et donc la bonne santé de nos clients. Ça, c'est très important.
Pour revenir au thème du jour, le mentorat, est-ce que dans votre parcours, dans votre vie étudiante et puis ensuite professionnelle, vous avez eu vous-même des mentors ?
Bon, des mentors au sens strict du terme, je ne sais pas, mais il y a évidemment des personnages qui m'ont aidé. Je pense que le premier, c'était mon grand-père instituteur, qui avait plein de qualités, outre le fait qu'il était instituteur et qui m'a beaucoup aidé à comprendre un certain nombre de choses. J'avais un autre grand-père qui, lui, était industriel, Seffenmann, qui m'a aidé à comprendre d'autres choses, parce que ce n'était pas du tout les mêmes univers. Et puis, dans les parcours, je dirais, d'étudiants, je pourrais vous citer beaucoup de mes excellents professeurs de mathématiques qui étaient des passionnés. La mathématique, c'est une science, en fait, expérimentale, très intéressante, vivante, hein, contrairement à cette image souvent froide qu'on lui donne. Donc je pourrais citer M. Varusfeld, vous pouvez acheter si vous voulez son excellent livre sur le rugby cube, ou un Erwin Rosenberg qui a fait partie de ceux qui m'ont accueilli ici à la banque et qui justement m'a bien expliqué que la banque c'était un métier de commerce et de clientèle. Et évidemment on y distribue des produits qui ont un trait et un rapport avec la finance, mais c'est d'abord un fonds de commerce et la bonne santé et l'intérêt de nos clients est au centre de tout ce que nous faisons. Voilà un peu mes mentors. Voilà. Après, je pourrais rajouter beaucoup de noms qui m'ont aidé. Mais ça, c'est quelques-uns des personnages qui m'ont plu le plus.
Inspiré.
Voilà, absolument.
Exploration Bivouac. Portrait d'explorateur d'aujourd'hui.
Bonjour Madame Cogne et bienvenue dans ce podcast. Vous êtes donc l'actuelle directrice et générale de l'association Télémac, fondée en 2005. Vous en êtes à la tête depuis 2016. Et puis, on le rappelle, c'est une association qui réunit des mentors, ici du monde professionnel et éducatif, qui accompagnent des jeunes pour leur donner les meilleures chances de se révéler. Alors, après diverses expériences en tant que consultante et un voyage à l'étranger, d'où vous vient cet intérêt pour le mentorat ?
Merci beaucoup pour cette question, effectivement, qui me replonge quelques années en arrière, Cyrielle. Moi, j'ai toujours été profondément républicaine et je ne peux pas accepter depuis toute petite qu'effectivement notre société française soit discriminante, clivante. Et c'est vraiment un combat dans mon collège d'éducation prioritaire. Quand j'étais jeune, j'aidais mes camarades de classe. Et donc, après quelques années dans le privé, effectivement, j'ai eu envie de m'occuper de jeunesse. Et puis également dans mon parcours, j'ai eu plusieurs mentors dans mon parcours éducatif et après d'insertion. Quand Henri Lachmann m'a appelé pour prendre la DG de Télémac, ça m'a semblé tout à fait naturel comme mission à accomplir.
Alors, même question qu'à Monsieur Bonafé. Est-ce que, voilà, vous venez de le dire, hein, vous avez des mentors au cours de votre vie scolaire, entre votre vie d'étudiante, puis dans votre vie professionnelle. Vous en avez eu combien et lequel vous a le plus marqué, vous a le plus aidé, vous êtes le plus émancipé?
J'en ai eu 4-5, je pense. Et celle qui m'a beaucoup aidée, effectivement, c'était Armelle Carminati, qui a été la première femme associée chez Accenture. Elle m'a appris à être performante tout en étant bienveillante.
Exploration Bivouac. Explorer, échanger et confronter des idées. Discussion.
Le mentorat se décline sous différentes formes, hein, pour différents publics. Il y a le mentorat à destination des jeunes qui fait l'objet d'une initiative notamment gouvernementale. Un jeune à mentor pour accompagner des scolaires, des étudiants ou encore des jeunes actifs. Il y a le mentorat pour les entrepreneurs, pour leur donner des conseils afin qu'ils puissent développer leur business. Et puis le mentorat qu'on peut qualifier d'interne quand un collaborateur expérimenté accompagne un de ses collègues plus jeune pour l'aider à progresser dans l'entreprise. Alors en quoi cette pratique du mentorat de façon générale est-elle vertueuse pour la société, puis surtout quel rôle les entreprises ont-elles à jouer, Jean-Laurent Bonafé ?
Alors, je dirais que le mentorat, c'est une rencontre entre deux personnes finalement. Deux personnes qui sont en général assez différentes. Il y en a une qui est prétendument le mentor, qui a un certain parcours professionnel, une certaine expérience, et puis une autre qui est le mentoré, qui a des idées, un projet, et qui est à la recherche de bons conseils. Mais il manque peut-être de pratique, de réseau, de connaissances. Et celui qui est plus avancé, je dirais, dans la, une forme de carrière professionnelle, il sait mieux comment on s'y prend pour développer quelque chose de façon construite. C'est ça la richesse de la relation, c'est que quelqu'un vient chercher des méthodes et l'autre découvre un monde qui n'est pas forcément son monde de référence. Ça, c'est moi ce que j'appelle la relation réciproque. Et quand on est une entreprise comme BNP Paribas, elle est bien placée pour savoir que les sociétés dans lesquelles nous vivons connaissent un certain nombre de difficultés, hein, qui sont liées à l'exclusion scolaire, à l'exclusion de parcours de formation. Donc, nous sommes des sociétés où petit à petit... L'égalité des chances devient un peu plus théorique tous les jours. On voit une inégalité des chances s'installer. Et donc le mentorat, c'est une façon pour une entreprise, ses cadres, ses collaborateurs, de se projeter à l'extérieur et puis d'aller parler à un certain nombre de plus jeunes qui peuvent avoir des projets de toute nature. Et donc, comme on est au-delà des cadres ou des membres ou des collaborateurs de l'entreprise, nous sommes des personnes. Et que personne voit bien que dans la société d'aujourd'hui, tout ça ne fonctionne pas aussi bien qu'il pourrait. Cette capacité à tendre la main à d'autres qui sont à l'extérieur et qui ont des projets, c'est assez naturel. Et ça fait progresser les personnes, parce que ça leur permet de comprendre qu'en dehors de l'entreprise, les situations peuvent être différentes, voire très différentes, et que ça mérite qu'on y prête attention. Voilà, donc moi j'ai pas de définition, on va dire, normée, on n'est pas dans la mathématique. C'est une rencontre entre deux personnes, l'une apporte des idées, l'autre apporte de l'expérience, les deux s'enrichissent, et au final, normalement, si tout se passe bien, on progresse ensemble.
Comment on fait pour stimuler ses collaborateurs à devenir mentors ? Et justement, quelles sont les qualités requises d'un bon mentor ? Et je pense qu'il y a une question de transmission de confiance également au mentoré.
Je pense que ça demande pas mal d'organisation, en fait. C'est-à-dire que si l'entreprise se dit « Bon, moi, mes collègues, nous sortons et on va à la rencontre d'eux », la probabilité que ces rencontres soient fructueuses est assez faible. En fait, il faut qu'on puisse parler à des contreparties, ça peut être des associations, ça peut être des relais, qui vont nous adresser de façon un petit peu déjà organisée un certain nombre de besoins. C'est une double approche, c'est reposer sur des partenaires. Ça demande un grand travail de préparation. Et je dirais que chez BNP Paribas, ça fait une bonne vingtaine d'années qu'on est parti sur ces sujets. La fondation elle-même a quasi 40 ans d'existence, donc elle est déjà sur ces sujets depuis très très longtemps. Et dans notre histoire, ce qui nous a fait, entre guillemets, non pas progresser, mais nous réveiller de façon très... très violente, ça a été la crise ou les émeutes dans les banlieues parisiennes en 2005. Ça nous a fait prendre conscience que il y avait quand même des choses qui étaient en train de se passer qui méritaient attention. Donc c'est à partir de là qu'on a organisé de façon plus systématique les contacts avec notamment toutes les associations locales pour bien comprendre et être efficace, en fait, puisque c'est aussi un environnement dans lequel il faut chercher à être efficace.
C'est vrai que vous êtes assez connu et proche des entrepreneurs sociaux. C'est pour ça également que vous avez fait un partenariat avec la Fondation La France S'engage, portée par notre ancien président François Hollande. Est-ce que vous pouvez effectivement nous parler de l'entrepreneur social que vous accompagnez ? C'est My Human Kit, que j'ai déjà interviewé, c'est Nicolas Huchet. Comment se passe cet accompagnement ? Qu'est-ce que vous en retirez ?
C'est un jeune, on va dire, en tout cas pour moi, qui malheureusement a un accident du travail, hein, donc il perd une main, et il découvre malheureusement que les prothèses c'est très onéreux, ce n'est pas à la portée de tous, et puis au fond, c'est un instrument qu'on vous fixe, qui n'est pas à vous, qui n'est pas vous. Et partant de ces deux observations qui sont extrêmement fines, intelligentes, bienvenues, il se dit qu'il faudrait essayer de contribuer à ce que les prothèses soient plus abordables. Et d'autre part, si une personne qui a besoin d'une prothèse pouvait contribuer elle-même à sa fabrication, ça deviendrait un peu une partie d'elle-même et non pas un objet tiers. Bon. Donc il est parti sur ses idées, avec sa vision, sa force de conviction, il a rencontré un certain nombre de personnages, il a été sourcé par La France S'engage, c'est comme ça qu'on l'a rencontré. Et la difficulté, c'est que pour faire ça, il faut rassembler beaucoup de savoir-faire, beaucoup de talents, beaucoup de partenaires. Et les conversations qui sont régulières sont toujours autour de cette idée. Où en est le projet? Qu'est-ce qui pourrait vous manquer? Qu'est-ce qui pourrait vous servir? Comment on s'y prend pour vous aider à accéder à ces compétences complémentaires? Et bon, ça fait maintenant un certain nombre d'années que nous avons cette conversation. Alors tous les 6 mois, tous les 3 mois, ça dépend des moments. C'est peut-être plus ou moins fréquent ou plus ou moins distant. Et puis, nous, on sert de relais et on met en relation avec des partenaires qui apportent des choses. On a également mis en place quelques financements spécifiques pour aider à accélérer certains projets dans le projet. Et donc, au fond, moi, j'ai découvert un monde que je ne connaissais absolument pas. J'ai découvert une personne qui est assez exceptionnelle. Enfin, c'est quand même une forme de génie, enfin d'observer et puis ensuite d'y croire, de porter la bonne parole et de faire en sorte que ça prenne forme. Et puis, je pense de leur côté, ça a permis de réunir les moyens, les entrées en relation qui font que le projet a pu décoller. Sinon, probablement, faute de moyens ou d'entrée en relation, ou de support, ou de promotion, ou de sponsoring, je ne sais pas, le projet, à différents moments, aurait pu buter.
Ce qui est sympa avec HumanKit, c'est qu'effectivement, on peut fabriquer sa prothèse avec une imprimante 3D. C'est-à-dire qu'on peut choisir sa couleur, etc. Et ça rend effectivement la prothèse plus accessible, plus, entre guillemets, un peu plus fun aussi, il faut le dire. Et il en fait, et Nicolas en est le parfait ambassadeur d'ailleurs de son produit.
C'est un coup de génie. C'est un coup de génie.
Alors BNP Paribas soutient donc les acteurs du mentorat depuis 1995 avec l'AFEF par exemple et engage ses collaborateurs avec nos quartiers en du talent depuis plus de 10 ans, depuis 2006. Alors aujourd'hui BNP Paribas est partenaire et mécène des principales associations spécialistes de cette cause, d'Article 1 à Télémac en passant par Proxité. D'ailleurs vous participez à démocratiser le mentorat et à diffuser cette pratique dans d'autres entreprises en aidant notamment le collectif Mentorat. Qu'est-ce qui a motivé le groupe d'ailleurs à s'engager sur cette question?
C'est l'observation, je le disais, de l'évolution de la société dans laquelle nous vivons. Si, la BNP c'est Banque Nationale de Paris, Paribas c'est Paribas, donc on est d'abord et avant tout historiquement, on a racine une banque parisienne. Notre région d'origine c'est Paris. Quand on voit en 2005 les émeutes, alors même qu'on a un dispositif extrêmement serré dans toute la première couronne, qu'on est probablement le premier employeur privé en Seine-Saint-Denis, etc., alors qu'on est très capillaire et que normalement on est placé pour voir, en fait on ne voit rien. L'événement arrive et on n'avait rien vu. Ce qui est toujours un peu inquiétant parce que normalement on est censé voir les évolutions. Et là il y a une crise. Et on observe qu'en fait, l'économie de proximité dans laquelle nous opérions était beaucoup plus abîmée que la représentation qu'on s'en faisait. C'est aussi simple que ça. Et question, qu'est-ce qu'on peut y faire? Comment on peut y contribuer? Bon, ça c'est un réflexe de personnes qui ont un souci d'œuvrer pour la collectivité en général, au-delà de l'entreprise, hein. Donc aller à la rencontre de ceux qui avaient une meilleure connaissance que nous. Donc c'est à ce moment-là qu'on a trouvé beaucoup d'organisations, d'associations qu'on connaissait mais qu'en fait on ignorait, on n'avait pas un rapport véritable. Et la conversation est partie sur, bon alors si on commence à essayer de voir de façon un peu construite, organisée, en mettant un peu des moyens, c'est-à-dire un peu d'argent et du temps, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, accélérer votre action, la rendre plus robuste. Voilà, et donc c'est à ce moment-là qu'on a découvert tout cet écosystème qui était en germe, mais qui demandait à être encouragé en quelque sorte. Hein. Et je pense que symboliquement, la réalisation de l'ascenseur, qui est donc cet immeuble où on retrouve la représentation de toutes ces associations, organisations, qui répondent pratiquement à toutes les questions qui peuvent être posées ou aux problèmes qui se posent dans ces environnements. Donc chaque association, vous en avez cité quelques-unes, Article 1, etc., une particularité, une attitude, un segment, une spécialisation. et mise bout à bout, de fait, elle couvre assez bien les besoins. Et il faudrait avoir beaucoup d'ascenseurs un peu partout en France, en réalité. Il en faudrait probablement plusieurs en région parisienne également. Donc, c'est aussi une forme d'expérimentation, de courbe d'apprentissage. Ce que nous faisons, c'est une approche qu'on a eu la bonne fortune de conduire, qu'on va continuer à développer, mais que d'autres peuvent reprendre, recopier à leur façon, en apportant d'autres idées. De toute façon, si les entreprises ne sortent pas, entre guillemets, de leur mur, de leur activité au sens strict du terme, pour aller à la rencontre de l'économie, de la société qui les entoure, à un moment où c'est plus difficile, ce n'est pas la puissance publique qui pourra y pourvoir. Je dirais, il faut qu'il y ait quelque chose qui aille au-delà pour couvrir l'écart et réparer certaines faiblesses, voire certaines failles dans la société d'aujourd'hui. Et ces failles, on les appelle, on va dire, l'inégalité des chances, on va dire ça comme ça.
Quelles sont aujourd'hui justement les ambitions du groupe en matière de mentorat ? J'ai entendu parler d'une ambition de 1000 mentors. En quoi ça consiste ?
Ça consiste à avoir 1000 personnes dûment répertoriées. Le 1000, c'est un chiffre rond qui est symbolique. Mais ce qui est important, c'est la qualité de chacun de ces mentors. Et donc la qualité, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent apporter pour pouvoir les mettre en face de sujets, de projets, de personnes qui vont avoir besoin de ces compétences. Et toute la force du modèle, c'est ça. Alors 1000, est-ce que c'est beaucoup ? Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est trop ? On ne sait pas. 1000, c'est matériel. Après, on peut peut-être faire 2000. Je ne sais pas, on verra. Ce qui est important, c'est que ça soit des approches qui se popularisent. C'est-à-dire que d'autres entreprises, il y a d'autres entreprises qui ont ce type d'approche, mais de plus en plus d'entreprises s'y collent. Et je pense que ça donne une puissance à nos économies de proximité, à la société, à la réparation des problèmes. C'est quelque chose qui est devenu indispensable. Et en plus, c'est très micro. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des discours globaux. On est sur des sujets qui existent vraiment, des projets qui existent vraiment, des personnes qui ont vraiment besoin de conseils.
D'avoir ce sentiment d'utilité. Et justement, pour toutes vos équipes, les équipes qui nous écoutent, qu'est-ce que vous leur diriez justement pour motiver vos troupes à devenir un super mentor ?
Je pense que tout le monde peut faire du mentorat. Je pense que parce que souvent, il y a une envie, mais une petite crainte, c'est de ne pas être préparé ou de décevoir en quelque sorte celui qu'on est censé aider. Si vous êtes censé aider, accompagner quelqu'un, c'est sûr que votre principale crainte, c'est de rater, de ne pas être au niveau. Donc il y a encore un peu trop de personnes probablement qui ont cette crainte. Bon, la crainte, elle est justifiée, c'est pas si simple. Donc c'est vrai qu'il faut un peu se préparer. Il faut bien exprimer ce pourquoi on se sentirait au moins prêt ou volontaire. Et après, il faut se préparer. Et puis après, la qualité du sourcing fait que normalement, on vous binôme avec quelqu'un qui pourrait vraiment avoir besoin de ce que vous êtes ou de ce que vous savez faire. Mais il y a encore un peu de frein sur est-ce que oui, non, je suis capable de. Je pense que tout le monde est capable à condition d'être un minimum préparé. Et de toute façon, il faut essayer. Mais il faut quand même essayer en étant bien préparé. Ça repose sur des volontaires, une organisation interne à l'entreprise qui met en perspective et qui prépare, des contreparties, les associations qui nous aident pour repérer les besoins et les mettre en forme. Donc c'est un travail d'intermédiation en quelque sorte. Mais il y a les collègues, l'organisation de l'entreprise, les contreparties des associations et, entre guillemets, les bénéficiaires, ceux qui vont recevoir ce support. Donc ça demande de l'attention, ça demande des personnes, ça demande de la bienveillance. C'est un écosystème qui est assez subtil. Mais à la fin, si on fait bien, 1000 mentors, 1000 succès. Moi, je dis ça.
1000 satisfactions, en interne comme en externe pour les mentors.
Absolument, absolument.
Exploration bivouac. Explorer, échanger et confronter des idées. Discussion.
Nous partons donc à la rencontre de l'association Télémaque et d'Erika Cogne. Pour rebondir sur les propos de Monsieur Bonafé, le mentorat, c'est avant tout la rencontre entre deux personnes. Pour vous, Erika, qu'est-ce que concrètement le mentorat et surtout quelles sont les qualités d'un bon mentor ?
Alors, on défend une définition européenne du mentorat à présent, parce qu'on est un métier professionnel. Donc, le mentorat, c'est effectivement une relation interpersonnelle entre un jeune et son mentor, gagnant-gagnant. Et ça, j'insiste beaucoup, c'est-à-dire que c'est pas dans un sens ou dans l'autre, c'est vraiment gagnant pour les deux. Orchestré par une association professionnelle comme Télémaque, et puis il y en a d'autres. Et nous conseillons une rencontre par mois pendant 6 mois minimum. Sinon, c'est plutôt du coaching ou c'est plutôt d'autres formes de parrainage. Les qualités pour un bon mentor, c'est tout d'abord de l'ouverture, ouverture sur soi et ouverture vers le monde, de la tolérance, de l'écoute, finalement beaucoup de compétences dites soft, de l'empathie. Et puis aussi du temps, j'ai envie de dire, parce qu'avoir du temps dans nos sociétés en cours, c'est vraiment très précieux.
D'ailleurs, à travers Télémaque, ce n'est pas 2 mais 3 personnes qui se rencontrent puisque vous mettez en œuvre un double mentorat, l'école-entreprise. Qu'est-ce que c'est ?
Alors effectivement, le fondateur de Télémaque a pensé utile qu'il y ait un mentor plutôt professionnel qui apporte plutôt une dimension de connaissance de soi, de confiance en soi, de découverte des métiers et d'ouverture socioculturelle, parce que c'est si important de s'épanouir aussi culturellement, comme le disait si bien Bourdieu. Et le mentor de l'éducation nationale est plutôt là comme un ange gardien, je le dis souvent dans les collèges, pour veiller au bon suivi scolaire et à l'orientation des jeunes. Donc ils ont vraiment des rôles complémentaires, le mentor professionnel et le mentor de l'éducation nationale.
Donc aujourd'hui, c'est un peu la clé d'avoir un double mentorat, c'est ça ? Enfin, comment ça se passe ? En quoi c'est véritablement différent ? C'est complémentaire, mais en quoi ?
En fait, les problématiques d'un jeune adolescent dans un collège d'éducation prioritaire sont finalement assez complexes. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir ces deux piliers pour accompagner le jeune, surtout que n'oublions pas que les parents de nos jeunes sont souvent en difficulté, même si on essaye de les accompagner aussi là-dessus, pour accompagner leurs jeunes sur les dimensions suivi scolaire et orientation. En fait, malheureusement, ils n'ont aucune idée, pour la plupart, on le mesure dans nos études d'impact, des bonnes filières empruntées, des bonnes études, des points de vigilance, parce qu'en fait, il est important d'agir très tôt pour éviter le décrochage scolaire. En fait, il est important d'être extrêmement... C'est pour ça que je parle d'ange gardien, extrêmement vigilant sur les signaux faibles des jeunes adolescents. Et c'est ce que vont faire des parents de milieux moyens ou plus aisés, parce qu'ils vont veiller sur leurs enfants, ou en tout cas mettre des conditions en place pour que cette attention très forte soit faite. Pour les parents de nos jeunes Télémaque, c'est plus difficile. Ils sont sur des dimensions de survie, des dimensions de difficultés aussi dans leur vie économique et sociale. Et donc, ils ont un manque de connaissances sur cette vigilance à apporter.
Il y a de nombreuses entreprises et collectivités, près de 200 d'ailleurs, dont BNP Paribas, qui vous soutiennent et participent d'ailleurs aux actions de mentorat. Comment d'ailleurs vous les identifiez et comment vous les embarquez dans votre aventure de Télémaque ?
Alors déjà, BNPP est un de nos principaux partenaires. Voilà, je tiens quand même à le dire et merci parce qu'effectivement, au niveau national, sur tous les territoires, qui est un de nos prismes importants parce qu'on est présent dans 8 régions, on arrive à avoir des mentors de BNP Paribas. Donc effectivement, la question du territorial, elle est importante. Chaque mois, nos jeunes rencontrent leurs mentors dans leur ville. Donc, il est nécessaire d'avoir des entreprises dans toutes les villes. On est présent dans plus de 80 villes en France. Donc, la question territoriale et la proximité territoriale. Il ne faut pas oublier que nos jeunes en 5e, dans la filière générale, ils ne sont pas autonomes. Donc, il est essentiel que les jeunes et les mentors soient proches. Ensuite, en deuxième angle pour solliciter des entreprises, c'est les secteurs d'activité. Nous, on a vraiment à cœur de pouvoir présenter à travers les mentors et à travers les visites d'entreprises qu'on réalise tous les secteurs d'activité. Et on ne va pas se mentir, il y a vraiment des secteurs d'activité en plus super passionnants pour les jeunes.
Comme lesquels ? La tech, non ?
Oui, beaucoup. La tech, les jeux, le luxe, les médias. Voilà, et c'est important de les faire rêver. Voilà, on a aussi des quotidiens parfois difficiles, surtout dans ces familles-là. C'est important de faire rêver à travers les mentors, à travers les visites. Et enfin, troisième dimension, bah, c'est des entreprises qui ont envie. Et ça, ça ne s'invente pas, des entreprises qui ont envie de s'engager, des entreprises qui ont envie de soutenir cette jeunesse voilà, plus en difficulté et qui sont dynamiques. Parfois, je dis à mon équipe, en fait, on ne va pas forcer quelqu'un à devenir partenaire. Il faut vraiment que ce soit aussi un engouement mutuel.
Monsieur Bonafé parle d'ailleurs d'un gros travail, effectivement, de préparation au mentorat. En quoi voilà, faut-il former, préparer les futurs mentors qui sont volontaires ?
Effectivement, alors c'est important parce que finalement, le mentorat, ça ne s'improvise pas. Ce sont des jeunes adolescents. Donc il est important voilà, de former les mentors. Donc, c'est un premier élément. On a aussi, évidemment, mis en place des guides du mentorat, des kits. Et puis, on leur propose des after-work où ils verront se rencontrer entre pairs. Et ça, je pense que c'est vraiment très utile. Là, les langues se délient, ils se confient des conseils, des secrets pour accompagner au mieux les jeunes. Évidemment, on fait la médiation des after-work. Et enfin, mon équipe opère un suivi mensuel au début de la relation, puis trimestriel, vraiment pour veiller sur cette relation pour qu'elle se passe bien. Et si besoin, faire une médiation et enfin un bilan.
Et quels conseils vous leur donneriez justement ? Quels sont les retours d'expérience ?
Alors moi, ce qu'on adore dans notre métier, c'est qu'en fait, finalement, Cyrielle, il n'y a pas de vraie recette magique. C'est une aventure humaine. Ce qui est important, c'est vraiment d'apprendre à se connaître et de faire tomber les masques, en fait. Parce qu'on est tous dans des postures où on va jouer des personnages. Et en fait, cette relation de mentorat, c'est une relation personnelle, une relation humaine. Donc, c'est important que le jeune et ses mentors se parlent de cœur à cœur et qu'ils puissent se dire les choses.
Est-ce que la clé, finalement, pour donner justement à son jeune, ce ne serait pas de lui donner la confiance ?
Alors, on observe avec nos études d'impact que c'est le principal écueil, effectivement. Donc, en fait, le mécanisme d'autocensure, hein, qui est à la base du manque de confiance en soi, est un mécanisme du jeune, de ses parents, des professeurs, du territoire et de son environnement. Et donc, en fait, tout est fait pour que ça ne marche pas. Et ça, ce n'est pas Télémac qui le dit seul, c'est aussi le CNSCO, c'est des dizaines d'études. Donc, la confiance, c'est vraiment quelque chose d'important. Trop souvent, nos jeunes, comme j'ai pu le vivre, on leur dit « c'est pas pour toi, c'est pas possible ». Et il est important, dès le début, de leur dire « mais si, regarde toutes les possibilités ». Voilà, tout ce à quoi tu as le droit, si tu travailles, si tu es motivé, si tu es curieux, si tu es positif, voilà le champ des possibles.
Et quels sont les retours d'expérience des jeunes accompagnés, puis surtout aussi vos résultats de ce double mentorat ?
On a vraiment à cœur déjà d'accompagner les jeunes vers le baccalauréat. Donc, on a des très bons résultats, hein, 96% de réussite l'année dernière, 72% de mentions, alors qu'il n'y a que 59% de mentions au niveau national. Et puis surtout dans les quartiers dans lesquels on intervient, c'est vraiment plus difficile d'avoir des très bons éléments en classe. Et puis, in fine, on mesure aussi à la fin l'insertion des jeunes. Donc nous, nos jeunes ont âge d'avoir un emploi, il y en a 97% qui ont un emploi. Et après, ce qu'on va commencer à mesurer, parce que là, ça fait 15 ans qu'on existe, mais comme on les accompagne 6 ans, on commence à avoir les vrais premiers alumni qui sont dans leur premier job, ça va être effectivement de mesurer leur ascension sociale. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont intégré l'entreprise ou une institution, une collectivité, est-ce qu'ils réussissent ? Combien de temps ils réussissent ? Et est-ce qu'ils sont capables d'avoir des niveaux de direction ? Récemment, il y a une jeune fille que j'aime beaucoup qui, ça y est, a fini Sciences Po et a attaché parlementaire. Ça paraît, voilà, mais en tout cas pour moi c'est un symbole important. Cette jeune fille, on n'en avait jamais eu. Voilà, une jeune fille qui est quand même attachée parlementaire. Et quand elle avait fini ses études, m'avait dit, tu sais Erika, moi un jour je serai ministre.
Exceptionnel. Est-ce que vous savez si effectivement vos alumni deviennent à leur tour également aussi mentors une fois qu'ils sont arrivés en entreprise ?
Oui, alors pour le moment c'est encore réduit, mais on en a plus d'une dizaine et on va continuer à renforcer cet effort sur les alumni. Et là récemment on a un jeune qui est effectivement au conseil départemental de l'Essonne et qui mentore un autre jeune qui est à Clichy-la-Garenne. Enfin, on est en train d'observer ces mentorats aussi territoriaux de jeunes et c'est super chouette. Moi, j'ai envie d'inviter nos alumni à ce que nécessairement leur entreprise soutienne Télémac. Ça paraît évident.
Exploration bivouac.
Exploration bivouac.
Merci infiniment, Éric Acogne, pour votre témoignage. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. J'espère que nos échanges vous auront aidé à y voir plus clair. Et puis encore merci à Monsieur Bonafé de nous avoir fait l'honneur de participer à Exploration Bivouac. À très vite avec un nouveau sujet et de nouveaux invités.
Exploration Bivouac. Be the change. Make it happen.